Les rencontres inattendues ont lieu à Tournai ce week-end. L'occasion d'en profiter et aussi de découvrir ce fabuleux programme qui va nous être présenté maintenant en direct par Laurent de Sutter. Bonjour Laurent de Sutter.
Bonjour.
Donc vous êtes le directeur de ce festival?
Oui, le directeur de ce festival depuis cette année, puisque c'est un festival qui fête ses 10 ans et qui a été fondé et dirigé depuis ses origines par quelqu'un qui s'appelle Didier Plateau, voilà, ancienne grande figure de la bande dessinée de l'édition, puisque c'est lui qui avait fondé aussi la fameuse collection À suivre des éditions Casterman au début des années 80. Vous savez, la collection qui a fait connaître au public francophone Hugo Pratt, Milo Manara, toute une série de figures comme ça. Donc voilà, je suis très honoré effectivement cette année de prendre pour ainsi dire sa succession.
Festival donc qui a lieu à Tournai ce week-end, il n'est pas toujours exclusivement à Tournai d'une année à l'autre?
Alors il est toujours à Tournai pour l'essentiel, mais il connaît deux volets qui sont des volets hors Tournai, si j'ose dire. Le premier qui est une caravane d'ateliers qui se déplace dans toute la région de la Wallonie-Picarde, hein, vraiment à la frontière, avec la région lilloise. Et puis de l'autre côté, on a en général effectivement un ou plusieurs spectacles qui vont aussi se promener dans d'autres villes de la province, voilà, du Hainaut belge, donc soit Mons, soit Charleroi, voilà. Cette année-ci, ce sera relativement, ça restera pour l'essentiel quand même concentré sur la ville de Tournai.
Donc, Laurent de Sutter, un festival assez, alors non seulement original, mais ambitieux.
Mais disons que c'est un festival qui est original, au moins pour un fait très simple. Il se fait que on l'a découvert un peu par hasard nous-mêmes. Hein. C'est pas quelque chose qui était forcément délibéré dès le début, mais enfin, on a découvert que c'était le seul festival au monde qui accordait une part absolument égale à la musique et à la philosophie. On utilise souvent les musiciens pour égayer un petit peu les présentations philosophiques dans les festivals de philosophie quand il y en a. Ici, c'est vraiment un festival qui est un festival de création aussi bien du côté de la pensée que du côté des la musique, des performances musicales, et donc les deux disciplines, les deux modes d'expression sont chez nous en dialogue permanent. Et voilà, donc c'est un festival qui de ce point de vue-là est évidemment original, mais il est ambitieux aussi dans la mesure où il a vocation à mettre en scène, à exposer la pensée telle qu'elle est en train de se faire et la musique telle qu'elle est en train de se faire dans leur dialogue mutuel et de le faire en comptant évidemment sur l'intelligence et la culture d'un public, qui est un public qui est fidèle au rendez-vous chaque année et dont on remercie évidemment vivement, en comptant sur l'intelligence d'un public qui a aussi envie de venir découvrir des choses qui ne sont pas forcément les grandes leçons philosophiques éternelles, si vous voulez, expliquées, réexpliquées et rendues plus séduisantes avec la musique. Non, l'idée, c'est véritablement de tenter de penser ensemble et de penser à la fois avec les mots, avec les concepts, avec les idées, mais de penser aussi avec les oreilles, de penser également avec les yeux, parce qu'il y a une programmation qui est également une programmation visuelle sous forme de d'exposition et de programmation de cinéma, et de penser même avec la bouche, puisqu'il y a des propositions qui sont des propositions, notamment cette année-ci, un spectacle participatif en l'occurrence qui s'appelle Fille ton assiette de Sarah Selma Dolores, qui est un spectacle qui nous fait manger et qui nous fait penser par et à travers ce qu'on mange.
Alors c'est un festival qui semble aussi interculturel, sinon intercivilisationnel.
Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est un festival qui s'inscrit dans une tradition qui est une tradition à nouveau liée à la province du Hainaut et à la Wallonie-Picarde qui ont des accords de longue date et des partenariats de longue date et aussi des contacts et des amitiés de longue date avec toute une série de pays autour de la Méditerranée, en particulier le Maroc, la Tunisie et la Palestine. Et donc, en effet, ce sont des choses qui sont importantes pour nous et qui existent et qu'on essaie de faire exister le plus fort possible dans le festival. Donc cette année, en particulier avec deux spectacles, un spectacle qui est une création qui s'appelle Parole d'honneur à partir de la bande dessinée de Laetitia Corinne et de Léla Slimani, voilà, qui seront sur scène pour faire vivre avec les comédiennes, avec les musiciens, musiciennes, faire vivre voilà ce spectacle autour de la parole de la parole libérée des femmes marocaines. Mais on a aussi on aura aussi un autre spectacle qui sera un spectacle qui sera la soirée anniversaire des 10 ans du festival, qui est un spectacle autour d'un très grand musicien palestinien qui s'appelle Ramzi Abou-Redouane et l'ensemble qui l'accompagne, l'ensemble d'Alouna. Voilà, qui sera une manière aussi pour nous, cette soirée anniversaire, à la fois de célébrer justement ces amitiés occidentales, orientales, et de le faire en se souvenant tous ensemble, au bout de ces 10 ans déjà passés, et en regardant vers les 10 années qui viennent, de se souvenir d'un des grands parrains, de celui qui fut un des grands parrains de ce festival et qui l'a accompagné véritablement durant toute cette première décennie, qui était Michel Serres. Alors après, c'est pas la seule dimension interculturelle, hein, voilà, il y a ce privilège-là, mais c'est vrai qu'une des idées et une des ambitions du festival, c'est de véritablement tenter de sortir, même si c'est un festival qui est en français, mais tenter de sortir d'une certaine manière des limites un peu strictes de la pensée francophone ou de la pensée française, et d'aller regarder ailleurs et de tenter de faire entendre au public du festival des voix qui sont des voix venues de près ou venues de loin, venues de près. Ben, on est en Belgique. La Belgique, vous le savez, est un pays multilingue. À 20 minutes de Tournai, il y a Lille, mais à 20 minutes de Tournai, il y a aussi la ville de Courtrai, qui est une ville qui se situe en Flandre. La Flandre est à côté, aussi à côté de Tournai, si vous voulez, que la France. Et donc, voilà, il y a un très grand auteur flamand, par ailleurs parfaitement francophone, qui s'appelle Stéphane Hertmans, dont tous les grands livres sont publiés aux éditions Gallimard, et vous connaissez peut-être, voilà, qui viendra aussi au festival pour un spectacle lecture autour de son dernier roman, Le cœur converti. Voilà, c'est un exemple. Je compte bien, c'est aussi la première année où j'arrive à la direction de ce festival, je compte bien aussi épaissir un petit peu plus notre relation avec l'Extrême-Orient, même si l'Extrême-Orient a toujours été présent, mais je pense que voilà, il y a évidemment des choses à apprendre et à écouter aussi de ce côté-là, l'Amérique du Sud, évidemment l'Afrique en général. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'univers, si vous voulez, qui sont des univers à explorer. On aimerait bien que le festival se fasse peut-être davantage carrefour des mondes, davantage que simple vitrine de la pensée francophone.
Alors, j'ai écouté un petit peu des artistes qui font partie de cette programmation, et une programmation vraiment riche et originale. On a écouté en fond sonore il y a quelques instants l'ensemble Clan qui va intervenir aussi dans une soirée. Et puis on va aussi découvrir un peu du travail qui est sur la durée, hein, de Rodolphe Burger ou Rodolphe Burger, comme vous voulez, qui lui a travaillé avec beaucoup d'artistes du monde justement. Il s'est adapté ou voilà, ils ont fait des croisements, on peut dire ça comme ça. Donc, qui s'occupe de la programmation musicale dans ce festival ?
Si vous voulez, c'est un festival qui, du point de vue même de son organisation, est un petit peu original dans la mesure où, j'ai envie de dire, tout le monde s'occupe de tout. Là, c'est moi qui suis en train de parler, mais en réalité, il y a toute une série d'autres personnes qui auraient pu parler aussi. Je veux dire, c'est pas un festival où il y aurait un espèce de grand chef qui déciderait de tout. C'est véritablement quelque chose qui se fait de manière collective. Pour ce qui est de la musique, disons que c'est peut-être davantage mon collègue et ami Frédéric Mariage qui s'en occupe. Mais là aussi, ça fait partie de dialogues qu'on a ensemble. L'ensemble Clang, que vous mentionniez il y a un instant, qui est un des tout grands ensembles de musique contemporaine européen, c'est un ensemble hollandais qui est basé à Rotterdam. Voilà, c'est par exemple une suggestion de moi. Voilà, c'est moi qui est venu avec cette suggestion, alors que normalement moi c'est peut-être plutôt davantage du côté philosophique. Il y a des suggestions et des idées qui viennent bien évidemment en sens inverse. L'essentiel pour nous, c'était de parvenir à construire une programmation qui soit une programmation qui ne soit pas juste capricieuse, où on met un peu tout ce qu'on a, dont on a envie au moment où on en a envie, mais une programmation où les différents éléments, qui soient musicaux, qui soient philosophiques, mais aussi qui soient de l'ordre de l'exposition, soient des éléments qui permettent d'avancer, de penser, de réfléchir sur un sujet donné, en l'occurrence le sujet de cette année qui est qui sommes-nous, question qui est à la fois éternelle, hein, qui a traversé l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée en général, et puis qui est aussi une question qui aujourd'hui prend un sens urgent, une urgence qui est non seulement une urgence de contexte sanitaire, bon, on est qui face à ce virus, mais aussi une urgence qui est une urgence plus civilisationnelle, que ce soit du côté de la politique, hein, politique décoloniale, politique de genre, féminisme, mais que ce soit aussi du point de vue écologique, qui sommes-nous finalement, nous qui sommes si imbriqués avec cette planète que nous sommes en train de détruire, et la détruisant, de nous détruire nous-mêmes. Donc ces questions, si vous voulez, c'est des questions qui sont des questions importantes, et on n'a pas envie qu'un thème soit juste une occasion, comme ça, voilà, quelques mots jolis que l'on met en avant d'un programme, et que ce soit véritablement un fil qui tisse entre eux les différents moments du festival. Voilà, ça c'est la préoccupation. La préoccupation, c'est pas tellement qui propose, c'est pas tellement quel est le rôle de qui est le chef ou qui n'est pas le chef, mais c'est comment est-ce qu'on fait vivre ensemble ce questionnement en espérant apporter le plus grand nombre d'éléments de réflexion aux spectateurs, mais aussi de préférence, évidemment, la plus grande joie possible, hein, puisque la pensée, c'est d'abord ça, c'est la joie de penser, et la musique. Comme le disait le grand Clément Rosset, qu'est-ce que la musique si ce n'est effectivement l'art même de la joie?
Donc la joie pour un festival festif, forcément un peu quand même, hein?
Ah ben bien sûr, non seulement parce que c'est son anniversaire, mais parce que ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous. Et c'est vrai que le dimanche soir, traditionnellement, qui est le dernier soir du festival, bon voilà, ça, le festival se termine par effectivement une soirée qui est une soirée festive, là qui sera animée par un quatuor de musiciens déchaînés qui devraient nous emmener jusqu'au bout de la nuit, et leur spectacle s'appelle Anchoise, crustacés, langoustines. Voilà, un spectacle qui est un spectacle aussi amusant que gay, en effet.
Donc le programme de ce festival, hein, qui a lieu donc vendredi, samedi et dimanche, est sur votre site lesinattendus.be, inattendu ES. Est-ce que au fil des années, vous avez la mémoire de ce qui s'y est dit, par exemple, en termes de thématique? Est-ce que vous gardez précieusement les réflexions qui sont variées chaque année avec des thèmes différents?
On essaye à plusieurs égards. D'abord, évidemment, parce que comme tout le monde, on archive, on vit dans une société qui est une société de l'archive à peu près absolue. Donc nous aussi, d'une certaine manière, nous sommes les archivistes de notre parcours, et on le fait aussi parce que si vous voulez, à travers ces questionnements qui se succèdent les uns derrière les autres, au fond c'est une espèce de ligne du temps qui se dessine, qui est la ligne de notre présent. Il est vrai que, sans vouloir spécialement coller à l'actualité, je veux dire, c'est pas l'actualité et l'urgence sont deux choses différentes. L'actualité, c'est quelque chose qu'on essaie de vous imposer. L'urgence, c'est d'une certaine manière ce qui s'impose de soi-même et qui n'a pas besoin d'être imposé à vous par un récit, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse davantage, ce sont les questions urgentes davantage que les questions actuelles. Mais néanmoins, quand on fait le fil comme ça des différentes interrogations qu'ont pu traverser le festival, on voit croître, je crois, avec les années un certain nombre de sentiments, un certain nombre de difficultés qui sont celles de tous nos contemporains, en réalité. Et on sait, c'est un mystère pour personne, et je dis pas ça du tout pour appuyer dans le sens de quelque chose qui serait une espèce d'angoisse contemporaine qui monterait, mais il faut bien noter qu'en effet les inquiétudes se font de plus en plus fortes, et comme elles se font de plus en plus fortes, elles se font aussi de plus en plus audibles. Et je pense que c'est un des traits au fond relativement intéressants et positifs de notre époque, c'est que toute une série de choses qui font mal aujourd'hui, que ce soit effectivement dans toute une série de débats politiques sur l'identité, sur autre chose, que ce soit dans les débats sur l'écologie, que ce soit même dans les débats sur le capitalisme ou l'anticapitalisme, eh bien, la bonne nouvelle, d'une certaine manière, c'est que plus que jamais, en tout cas plus que depuis que moi je suis capable d'en souvenir, on en parle. Voilà, on en parle, ça fait partie du débat public et toute une série de questions qui étaient des questions dont on ne discutait pas ou à peine. Les questions effectivement intersectionnelles, les questions environnementales à ce degré d'intensité, là sont des questions dont on parle, et donc le festival lui aussi voilà accompagne la montée en puissance d'une certaine manière de cette prise de conscience de l'importance de parler de ces choses, et pas rien que de parler bien sûr, l'importance de faire quelque chose de ces paroles qui s'échangent et qui s'échangent aussi à travers la sensibilité, la sensation, les affections aussi et les émotions qui sont les émotions limbiques.
Alors, l'année dernière, 2020, ça a été peut-être l'année de la sidération. Est-ce que cette année, c'est l'année du questionnement ?
Alors, on pourrait le dire comme ça, oui, l'année de la sidération est aussi la sidération dans le sens le plus catastrophé du terme. C'est-à-dire, c'est l'année de la sidération. Qui était aussi bien l'année de la consternation, c'est-à-dire c'est tout ensemble, c'est une espèce de cocktail absolument infernal. D'abord sidération en tant que personne, en citoyen pris dans cette espèce de d'immense panique politique et sanitaire, mais aussi en tant que programmateur culturel, voilà pour utiliser un mot sympa administratif. C'est vrai que fabriquer un festival dans un contexte comme celui-là, et finalement on avait réussi vaguement à faire quand même quelque chose, c'était un des rares festivals à avoir tenté quand même le coup à la fin de l'été dernier, mais c'était quand même dans la consternation de ce qui était possible ou pas possible, et de voir se bricoler quelque chose qui était si différent d'une certaine manière des festivals des années précédentes et de ce que ce festival veut être. Et consternation qui s'était accompagnée d'ailleurs l'an dernier par le fait que non seulement le contexte sanitaire était terrible, les contraintes étaient extrêmement fortes sur le public et sur l'organisation technique du festival, mais de surcroît, il avait fait absolument dégueulasse. Donc il pleuvait, il faisait froid. Enfin, c'était vraiment l'exemple parfait des circonstances hostiles, malgré les prestations remarquables de Alain Damasio et de nos autres invités de l'année dernière. Alors ici, ce serait le questionnement, et donc le questionnement, oui, c'est un bon mot, le questionnement qui s'accompagne cette fois, non pas de consternation, mais toujours d'une forme d'inquiétude. C'est un questionnement qui est un questionnement peut-être plus inquiet, même si, je le répète, le fait qu'on puisse se questionner sur tous les sujets dont je vous ai rapidement fait la liste, au fond, je répète, c'est quelque chose que je trouve positif, et en réalité positif de notre époque, si on y regarde attentivement, mais inquiétude quand même, inquiétude parce que finalement nous sommes quand même soumis à des jauges, inquiétude parce que on sort d'un été qui est un été, on peut dire aussi qu'il a été relativement pourri, inquiétude aussi parce qu'on ne sait pas très bien ce qui nous attend à la rentrée. Bon, moi j'ai envie de dire que toutes ces inquiétudes là ne sont pas de bonnes raisons pour se priver du plaisir. De venir écouter, en effet, Bruno Latour, de venir écouter Lélia Slimani, de venir écouter les autres invités, Pascal Chabot, Paco Mtielman, les autres invités du festival, et de tenter d'en tirer quelque chose qu'on peut ramener chez soi et qui peut éventuellement nourrir un petit peu la vie, quelle qu'en soit la signification.
Alors, à Lille, il y a chaque année, à l'automne, un festival de philosophie, Cité Philo. J'imagine que vous connaissez un peu, non ?
Bien sûr, oui, Cité Philo, c'est un très grand festival.
Donc, c'est un festival qui a lieu à l'automne. Vous avez fait le pari de faire quelque chose d'ambitieux pendant les vacances, nos vacances, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est un pari intéressant en termes de public ? Est-ce que vous avez des gens plus disponibles, par leur cerveau disponible, pour accéder à vos réflexions ?
Oui. Alors, je préviens, on ne vend pas de Coca-Cola au bar du festival. C'est
d'accord.
Très important.
Tout à fait.
Et on ne vend que des produits qui sont des produits locaux, bio, voilà. Mais pour en revenir à votre question, il y a une très grande différence évidemment entre Cité Philo, qui est un festival qui s'étend sur une géographie très importante, hein, dans, non seulement à Lille, mais dans toute une série d'autres villes, et même qui descend, je crois, jusqu'à Compiègne, qui s'étend aussi dans le temps, et qui s'étend sur une forme qui est une forme disséminée, comme ça, voilà, il y a des moments qui sont des moments un peu plus intenses, et puis, et voilà, des événements comme ça, c'est toute une série d'événements qui ont lieu dans toute une série d'endroits, et c'est un festival de philosophie pure, si vous voulez. Et donc, c'est vrai que c'est un festival qui est très, très différent d'une autre. Nous, c'est un festival qui est très dense. Voilà, c'est trois jours de spectacles, trois jours d'événements, trois jours de rencontres. Donc c'est effectivement un moment qui est un moment qu'on décide ou pas de vivre en entier. On peut venir picorer quelque chose, mais très souvent, notre public vient regarder plusieurs spectacles. Et c'est vrai que c'est un public c'est pas encore la rentrée des classes. Les vacances sont finies, donc il y a un moment comme ça, un peu de grâce, qui peut être aussi un moment de vide. Et je pense que pour pas mal de membres de nos publics, c'est une manière aussi de se dire, voilà, après deux mois de farniente, remettons le cerveau en route, voilà. Remettons le cerveau en route. Avec quoi est-ce que je peux me nourrir et peut-être me nourrir in extremis comme ça avant de reprendre le travail ou de reprendre le train-train du reste de l'année. Avec quoi je peux me nourrir et qu'est-ce que je peux ramener et voilà. Je crois qu'il y a ce côté comme ça, moment suspens entre deux choses, un espace un espace interstitiel qui du coup est un espace de voilà, qui peut être un espace de gourmandise, voilà, soit pour terminer quelque chose, soit pour en commencer une autre. C'est une date qui est une date qui est une, en fait, une assez bonne date pour nous, voilà, mm-hmm. puisque toutes ces années, au fond, je peux vous le dire sans excès de forfanterie, hein, mais c'est vrai qu'on a l'habitude aux inattendus de faire sold out, voilà. Donc ça signifie que pour le public, c'est quelque chose qui, visiblement, c'est une date qui convient. On n'a pas du tout l'intention d'en changer.
Alors une question triviale mais essentielle pour le public de notre région, public français, est-ce qu'il faut un pass sanitaire pour aller chez vous ?
Ah, c'est vrai ça. C'est vrai cette histoire. Eh bien, écoutez, non. Attendez. Oh, j'ai peur de dire une énorme bêtise. La figure rouge, j'étais pas du tout préparé à cette question, pour le dire très franchement, moi je suis intégralement vacciné depuis fort longtemps et donc la question du pass sanitaire pour moi est réglée. Du coup, je ne sais pas, en fait, je suis incapable de vous répondre.
D'accord. On m'a dit que les restaurants étaient ouverts à tous en Belgique, est-ce que c'est vrai?
Mais il me semble, oui, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, si je suis confus, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps en France, et j'ai passé beaucoup de temps en France cet été, mais pour ce qui est de la, pour ce qui est de, en fait, finalement, pour de la Belgique, c'est tellement naturel de rentrer et de sortir dans des, je ne me suis jamais fait, non, en fait, vous pouvez rentrer, mais évidemment, il n'y a pas de passe sanitaire, c'est pas demandé dans les restaurants en Belgique. Et je ne pense pas que ça le soit pour les spectacles en France, en Belgique non plus, ça n'est pas dans les cinémas. Il n'y a pas encore eu de décision en Belgique. Ce sont des décisions, je suis en train de vérifier au moment où je vous en parle, c'est pour ça que c'est un peu mon carré de caractère tout à fait erratique de mes paroles. Non, il n'y a pas de passe sanitaire. Voilà.
On va dire, pour nous, c'est peut-être un atout de plus pour ce festival qui a lieu donc à la frontière, on va dire, juste à côté de la frontière, à Tournai. Hein. Donc, dans la ville, quels sont les endroits concernés ?
Essentiellement, les grands lieux. Vous savez que le centre-ville de Tournai fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc les lieux principaux, c'est la cathédrale de Tournai, qui est un magnifique monument, les jardins de l'évêché, qui forment un tout avec la cathédrale, la cour de l'évêché. Il y a d'autres endroits aussi, j'ai envie de dire un peu plus éloignés dans une ville comme Tournai, ça signifie à 5-10 minutes à pied au pire. Il y a notamment un spectacle qui sera repris deux fois autour du Quatuor pour la fin des temps d'Olivier Messiaen, qui se déroule dans l'église Saint-Aubert, juste à l'extérieur de Tournai. Il y a une projection de cinéma ce soir en pré-festival qui a lieu au cinéma Imagix de Tournai. Voilà, mais ça c'est l'essentiel, si vous voulez, des espaces. Il y a également le Conservatoire de musique qui accueillera Paco Kielman et Olivier Médano samedi dans l'après-midi. Voilà, c'est le gros de certaine manière des espaces. Il y en a deux trois autres, mais tout ça peut être trouvé facilement sur le site. L'essentiel pour nous, c'est en effet d'occuper, de mettre en valeur ce patrimoine architectural assez magnifique, voilà, de cette petite ville, et de pouvoir en profiter en comptant aussi, il faut bien le dire, sur le soutien de l'épiscopat, de l'évêché. Voilà, c'est quelque chose qui est aussi important pour nous, de faire exister les espaces construits, les bâtiments. Voilà, c'est les bâtiments, d'une certaine manière, c'est aussi, si vous voulez, de la pensée matérialisée, de la pensée transformée en solide. Et donc le fait que ces bâtiments-là aient cette histoire et cette importance, c'est quelque chose qui pour nous contribue peut-être à la fois à l'émotion et contribue peut-être à la fois aussi à la possibilité de, justement, cette possibilité qu'on recherche de la pensée. Partout on peut la trouver.
Alors évidemment, je ne peux qu'engager dans ces conditions tout le monde à aller à Tournai ce week-end, même passer plusieurs jours, pourquoi pas. Puisque nous sommes à la radio, Radio Campus Lille 106.6 FM, campuslille.com, vous avez des partenariats avec la radio, avec des radios?
Alors on a deux partenariats qui sont des partenariats historiques, qui sont des partenariats... qui sont des partenariats belges. On a longtemps eu un partenariat avec France Culture... Mais l'émission France Culture ont été légèrement resserrées et les sphères de la prospection à l'étranger, à un moment donné, n'a plus semblé pertinent à la direction de la chaîne. Mais à côté de ce partenariat-là auquel on pense avec nostalgie encore, nous avons deux partenaires médias historiques qui sont d'une part la télévision locale de Tournai qui s'appelle Nos Télés, mais aussi bien sûr la chaîne de radio, la grande chaîne de radio publique belge qui s'appelle La Première, donc la RTBF en effet, que ce soit avec La Première, mais aussi avec la chaîne qui est l'équivalent, si vous voulez, belge de radio classique qui s'appelle Musique 3, qui est aussi toujours très active au festival. Bon, et puis on a aussi bien évidemment toute une série de partenaires médias qui sont des partenaires papier, à commencer par le grand quotidien Le Soir, voilà, qui nous soutient aussi depuis le début.
Voilà, bien merci pour toutes ces informations, Laurent de Sutter. Donc pour ce rendez-vous, qu'on peut dire peut-être le dernier des vacances ou le premier de la rentrée.
Voilà, exactement. C'est à votre choix, mais prenez celui qui vous intéresse le plus pour être certain que vous viendrez avec joie.
Bon, j'essaierai de prendre les deux pour venir pendant 3 jours alors. D'accord. Merci beaucoup, très bonne journée.
Merci à vous.
Rodolphe Burger, donc, ou Burger, on peut dire ça, hommage à Mahmoud Darwish.